Vous écoutez, on lit pour vous.
Retrouvez la parole, une réplique à la fois. Un texte de Stéphanie Morin, paru le 17 septembre 2025 dans la presse. Ça ressemblerait à un cauchemar pour plusieurs. Se retrouver sur la scène d'un théâtre avec la tête pleine de tout de mémoire et dans la bouche des mots qui se bousculent pêle-mêle. C'est pourtant la réalité des comédiens de la troupe du théâtre aphasique qui osent monter sur les planches d'ici et d'ailleurs depuis 30 ans. Nicole Coury avait 45 ans et deux enfants de 13 et 9 ans quand un accident vasculaire cérébral l'a terrassée. Cette polyglotte, qui maîtrisait quatre langues, a alors perdu sa capacité de parler, sauf dans sa langue maternelle, l'arabe. Et encore. Au début, les seuls mots qui sortaient de sa bouche étaient des gros mots, se souvient son fils, Marc Kuhn. Le diagnostic d'aphasie a été douloureux à recevoir, surtout quand ses médecins lui ont confirmé qu'elle ne retrouverait jamais complètement ses capacités langagières d'avant. Je me suis dit « Mon cerveau est fini », se rappelle Mme Coury. Mon deuil a duré un an. Mais j'avais deux enfants. Je devais faire quelque chose pour retrouver la parole. Lorsque son orthophoniste lui a suggéré de participer aux ateliers d'art dramatique du théâtre aphasique, elle a d'abord cru à une blague. Je ne parlais presque pas et je ne comprenais pas tout ce qu'on me disait. Comment voulez-vous que je fasse du théâtre? J'ai tout de même assisté à une représentation d'une pièce dans une bibliothèque. J'ai vu qu'il y avait des acteurs qui ne parlaient pas du tout sur scène. C'est ce qui a décidé Nicole Coury à s'inscrire aux multiples ateliers d'art dramatique, mais aussi de danse, de peinture, d'écriture ou de lecture offerts par l'organisme. « Je vivais beaucoup d'isolement », se souvient-elle. « C'est difficile quand on est aphasique de sortir de chez soi, de poser des questions à des gens dans la rue. J'ai perdu des amis anglophones qui ne m'invitaient plus parce qu'on ne se comprenait plus. » Elle a trouvé dans les locaux du théâtre aphasique une communauté de gens qui traversent des difficultés semblables aux siennes. Me retrouver avec des gens qui me comprennent me calme. Je ne suis plus seule, dit-elle. Surtout, elle a pu regagner assez de confiance en elle pour rejoindre la troupe du théâtre et se présenter sur scène devant public, malgré les inévitables oublis et les mots qui ne sont pas toujours les bons. Aujourd'hui, Nicole Coury fait partie de la distribution de spectacles présentés partout au Québec et même en France. Elle est aussi présidente du conseil d'administration du théâtre aphasique, en plus d'exercer son métier de photographe. Elle était sur les planches de la Maison de la culture Mercier le 18 septembre pour présenter la courte pièce « Le silence qui parle » en compagnie de cinq autres interprètes, dont trois acteurs professionnels, Pascal Monpetit, Vincent Leclerc et Jacques Lheureux. Cette pièce, créée en 1995 et présentée devant 5000 spectateurs jusqu'ici, s'inscrit dans un programme double. Elle sera suivie de « Suivez le fil », qui rassemble 9 interprètes. Des capacités plutôt que des limitations. Pour Vincent Leclerc, porte-parole de l'organisme depuis 2 ans, Nicole Coury et tous les interprètes de la troupe font preuve d'un courage immense en montant sur scène. « Ce sont des kamikazes », lance l'acteur. « Ils ont des problèmes d'élocution, de concentration, de mémoire et de compréhension. Toutes des choses utiles en théâtre. Et malgré tout, ils foncent. C'est admirable. Mettons que de côtoyer ces gens m'a aidé à mettre mes petites angoisses de comédien à leur place. » C'est d'autant plus impressionnant que plusieurs personnes qui ont fait un AVC se retrouvent aussi avec une hémiplégie. Le côté droit de leur corps est ainsi paralysé, ce qui complique beaucoup leur vie au quotidien et rend plus difficile la manipulation des costumes ou des décors sur les planches. C'est pourquoi une belle solidarité s'installe dans l'équipe, chacun prenant soin de l'autre pour le bon déroulement du spectacle. Isabelle Côté, directrice générale et artistique du Théâtre aphasique, refuse de s'attarder sur les limitations de ceux qui participent aux ateliers ou aux spectacles. Je vois plutôt des capacités. Tout le monde a des capacités. Le visage expressif d'un participant, l'autre qui peut dire quelques mots ou lire. Le théâtre aphasique est accessible à tous. C'est notre travail de nous ajuster. Pascal Monti et Jacques Lheureux sont ravis de faire partie de l'aventure du silence qui parle cette année. C'est un exercice de joie, lance la première. C'est impressionnant de réaliser que certains ne pouvaient ni bouger ni parler après leur AVC et qu'ils ont dû tout réapprendre. Le soir du spectacle dans les loges, on était tous dans le même bateau. Les comédiens qui souffrent d'aphasie travaillent 4 fois plus que nous, estime son collègue. Mais leur capacité d'absorption est étonnante. Ils font preuve de beaucoup de courage. Même son de cloche du côté de la metteuse en scène Lorraine Pintal, qui en est à son 8e spectacle avec le théâtre aphasique. La résilience des acteurs de la troupe m'impressionne, tout comme leur volonté de vivre leur réadaptation par l'art. C'était « Retrouver la parole, une réplique à la fois », un texte de Stéphanie Morin, paru le 17 septembre 2025 dans La Presse.
Bruno Hombeck. Les parents ont le pouvoir de valider les émotions de leurs enfants. Propos recueillis par Catherine Acou-Boisise, paru le 29 août 2025 dans le magazine Parents. En devenant parent, impossible de ne pas se frotter à toute une palette d'émotions qui traversent le quotidien de nos enfants. Comment recevoir ces émotions, les accompagner? Comment éviter de les confondre avec les nôtres, de les amplifier ou de les repousser? Élément de réponse avec un maestro de l'émotion, Bruno Hombeck, psychopédagogue et auteur de nombreux livres sur le sujet. Les émotions naissent-elles en même temps que les enfants? Elles existent dès lors que l'enfant prend contact avec la vie réelle. Elles permettent de réagir à tout ce que l'on vit. La première manifestation, c'est le cri face à l'inconfort, la colère. En grandissant, les 5 émotions deviennent plus ou moins conscientes. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût, comme dans « Vice-versa 1 », le film d'animation de Disney-Pixar. Elle s'exprime différemment selon le tempérament de l'enfant, et c'est bien le hasard, le patrimoine génétique qui détermine ce tempérament plus ou moins facile à vivre. Déculpabilisons-nous. Si on ne tire pas le bon numéro, je conseille d'être dans l'acceptation et de ne pas se décourager. L'environnement n'est-il pas aussi responsable des émotions des enfants? Si, et en premier lieu, la façon dont les parents vont y réagir. D'où l'importance de ne pas enfermer son enfant dans un personnage, d'être très attentif aux qualificatifs qu'on emploie. J'ai coutume de dire qu'un enfant né insupportable peut néanmoins rester aimable par ses parents. D'autres facteurs vont influencer le tempérament et faire que les émotions s'expriment avec plus ou moins de force, de désordre. Les expériences que va vivre l'enfant, le contexte sociétal plus ou moins anxiogène, les habitudes de vie aussi, alimentation, sommeil, vont perturber l'humeur, rendre le tempérament plus ou moins réactif. À l'adolescence, avec la construction de l'identité, les émotions vont devenir des états d'âme comme dans Vice-versa 2. Pourquoi, à 2 ans, la fameuse phase du « terrible 2 », les enfants ont autant de colère. Comment y réagir? À cet âge, les enfants comprennent qu'ils peuvent s'opposer et ça leur permet de construire leur personnalité, de s'affirmer par le non. La colère peut alors devenir pour eux une stratégie. Si on ne cède pas, on démontre que cette colère est inopérante. Par exemple, si avant d'arriver dans un supermarché, on prévient l'enfant qu'il va avoir envie d'acheter plein de choses, mais qu'on ne cédera pas et qu'il aura beau taper des pieds, cela ne nous fera rien. On va le décourager. Il faut aussi que nous restions calmes en toute situation? Non. Et c'est là une dérive de l'éducation positive. Je crois que le parent trop zen, qui compresse ses propres émotions, fait de longs discours au lieu d'avoir une réaction naturelle, perturbe l'enfant. On doit pouvoir dire « je suis en colère » et l'être réellement dans le regard, la posture quand un enfant a, par exemple, peinturluré les murs du salon. C'est cette cohérence qui permet à l'enfant de comprendre la situation. Par ailleurs, il n'y a rien de pire que le visage du parent anémotif. L'absence d'émotion fait paniquer l'enfant. Notre colère n'est-elle pas néfaste pour l'enfant? Non, sauf si elle sort du cadre. Il ne s'agit pas de se laisser déborder, de hurler, de menacer, de dire des mots qui dépassent notre pensée. Si on sent qu'on ne maîtrise plus sa propre colère, alors je conseille le fameux « time-out », chacun dans une pièce pour se préserver les uns des autres d'un trop-plein. Comment aider les enfants à comprendre leurs émotions, à les verbaliser? Je suis un grand fan des émoticônes. On peut les acheter ou les fabriquer. Inutile d'en avoir 80, juste pour les 5 émotions de base, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Lorsqu'on sent que son enfant est débordé, on lui demande simplement de nous montrer quel émoticône correspond à ce qu'il ressent. C'est plus utile que les mots pour faire le tri et montrer qu'on accepte l'émotion ressentie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on cède à tout. Par exemple, notre enfant qui refuse de manger des brocolis. On peut reconnaître que ça le dégoûte, mais expliquer que pour sa santé, il doit en manger un peu quand même. C'est un réflexe qu'on peut utiliser toute sa vie. Une fois que l'émotion est désignée, on peut chercher sa cause et comment y réagir. Cela simplifie énormément les situations. Qu'est-ce qui peut au contraire empêcher l'expression des émotions? Avoir un discours trop complexe. L'autre a besoin qu'on accepte son émotion, pas qu'on la raisonne. Parfois aussi, les proches ont peur des émotions difficiles, en particulier la tristesse et de leur possible contagion. Ils ont alors tendance à les minimiser, voire à les nier. Or, les enfants ne peuvent pas être dans la joie constante. Même les étreintes empêchent parfois de parler. Quand les émotions sont trop intenses à recevoir ou que les enfants ont peur de faire de la peine en exprimant ce qu'ils vivent, on a besoin d'un professionnel pour en parler. Idem entre conjoints. Peut-on éviter à nos enfants de ressentir des émotions négatives? Non. Les enfants, pour grandir, ont besoin de traverser toute la palette d'émotions. Par exemple, la peur, à travers des dessins animés adaptés à leur âge. Concernant l'actualité, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. En revanche, cela ne signifie pas qu'il faut montrer des images dramatiques, car en nourrissant l'anxiété, on la fait grossir. Parallèlement, je crois qu'on doit aussi choyer les capacités d'émerveillement des enfants grâce à des choses très simples, dans la nature en particulier, surtout pas en scrollant sur des écrans. Les enfants harcelés sont-ils des enfants en peine avec la gestion de leurs émotions? Il n'y a pas de profil d'enfant harcelé. Le harcèlement est une secousse émotionnelle difficile à vivre qui touche un enfant de manière aléatoire, sans aucune raison logique et qui résulte de jeux de pouvoir dans la classe. C'est important de le dire aux enfants. En revanche, il y a un profil d'enfant harceleur, un chef insensible aux émotions des autres. Rien de comparable avec un leader empathique. Comment expliquer le manque d'empathie justement chez certains enfants? Au fil des expériences, on active chez l'enfant des neurones miroirs. Si celui-ci est élevé par un parent qui fait du sarcasme, de l'ironie, l'enfant devient comme hyposensible. On doit aussi choyer les capacités d'émerveillement des enfants grâce à des choses très simples, dans la nature en particulier. À l'inverse, si on crée des moments d'empathie active avec l'enfant, où l'autre communique ce qu'il ressent, on lui apprend à être sensible, à tenir compte des émotions qu'il provoque. La famille est le premier lieu de l'apprentissage de la démocratie, de l'égalité entre nos émotions. Pour cela, il est parfois nécessaire de créer des espaces de parole régulés, parfois avec un professionnel. Les écrans peuvent-ils gêner la bonne communication des émotions? Les écrans, à l'inverse du spectacle vivant ou du cinéma, ne sont jamais interactifs, à part si on regarde un film ensemble ou si on fait un jeu ensemble. Le reste du temps, ils favorisent plutôt une perte de sensibilité émotionnelle. Je conseille donc de les évacuer le plus possible des temps familiaux. Quant aux smartphones, ils ne permettent pas l'écoute active et l'accueil des émotions. On manipule l'objet, on est attiré par des notifications. Bref, on n'est pas vraiment disponible pour l'enfant. Et quel est l'impact de nos émotions négatives à nous sur les enfants? Bien sûr, les enfants sont des éponges. La morosité a un effet négatif. Ne pas préserver les enfants de nos problèmes de travail ne leur donne pas vraiment envie de grandir. Mieux vaut avoir les discussions sur nos soucis entre adultes, à un moment où les enfants sont occupés. Pour autant, ce n'est pas une bonne idée de cacher notre mal-être, d'essayer de tenir et d'exploser sur les enfants à la moindre contrariété. On peut donc dire « on a un souci, on a besoin d'être tranquille, allez jouer ». À quel âge nos enfants maîtriseront leurs émotions? 103 ans. L'art de cultiver sa sensibilité sans qu'elle ne nous envahisse et prenne notre corps en otage, voilà le défi. Identifier ce qu'on ressent, pourquoi, ce qu'on attend des autres et pouvoir le formuler avec des mots. L'intelligence émotionnelle se travaille toute la vie. C'était Bruno Humbeck. Les parents ont le pouvoir de valider les émotions de leurs enfants. Propos recueillis par Catherine Acou-Boisiz, paru le 29 août 2025 dans le magazine Parents.
Une femme scénarise le premier long-métrage de fiction québécois. Un texte de Marc Tison, paru le 20 septembre 2025 dans La Presse. Un siècle avant le film 23 décembre de Myriam Bouchard et India Desjardins, le plus grand succès du cinéma québécois de 2022, les scénarios des deux premiers longs-métrages de fiction québécois étaient signés par une femme étonnante. Emma Gendron. En 1922, deux films marquants sur des héros populaires sont apparus sur les écrans. Robin Hood, avec Douglas Fairbanks, et Madeleine de Verchères, avec Estelle Bélanger. Robin Hood a été le film le plus couru de l'année, avec plus de 2 millions de dollars américains de recettes. Madeleine de Verchères a connu un succès nettement plus modeste, mais il a le grand mérite d'être le premier véritable long-métrage de fiction québécois. Il a été suivi en 1924 par « La drogue fatale ». Ces deux films, réalisés par Joseph-Arthur Aumier, ont été scénarisés par une dynamique journaliste et écrivaine, Emma Gendron, qui a pris son destin en main comme si elle en écrivait le synopsis. Emma. Même si elle affirmait être née en 1904, Emma Gendron est vraisemblablement venue au monde le 15 juillet 1897 à Saint-Barnabé en Mauricie, comme le démontre Sarah-Juliette Hinz dans la thèse de doctorat défendue en 2015 qu'elle lui consacre. Après des études interrompues par les déboires financiers de son père, meunier à Saint-Alexis-des-Monts, elle occupe deux ou trois emplois subalternes, puis met rapidement à profit ses talents littéraires. Elle commence en 1919 a publié des nouvelles et des romans feuilletons dans le journal Le Samedi, où elle tient bientôt une rubrique fort populaire intitulée « Le courrier de Manon ». La jeune femme montre un grand intérêt pour le cinéma, sur lequel elle écrit fréquemment, ce qui amènera ses patrons à lui confier la rédaction du premier magazine indépendant consacré au 7e art, le Panorama. L'ouvrage, biographie canadienne-française, paru en 1927, lui consacre une page, vraisemblablement rédigée par elle-même, qui nous apprend qu'elle a effectué vers 1923 un séjour à New York où elle aurait étudié au studio Paramount. De la fiction, ses cours de cinéma? On n'en trouve nulle trace. Qu'importe. Le fait d'associer son image à la renommée de cette entreprise montre qu'elle a certainement cherché à se positionner comme scénariste professionnelle, commente Sarah Juliette Hinz. Chose certaine, Emma Gendron rédige en anglais une pièce de théâtre, Namuna, qui sera montée en avril 1922 au théâtre New Empire à Montréal. Balbutiement muet du film québécois. C'est peut-être dans le milieu théâtral qu'elle rencontre Joseph Arthur Aumier, photographe professionnel et surprenant touche-à-tout, qui est aussi dramaturge, magicien, hypnotiseur, inventeur, écrit l'historien du cinéma québécois Germain Lacaze. Auteur de quelques pièces, le photographe s'intéresse tout naturellement au 7e art. En 1921, il tourne « Oh, oh, Jean », une farce burlesque de 40 minutes avec une troupe française en tournée au Québec. Présenté en juin 1922, le film attire l'attention d'investisseurs qui fondent avec Aumier la compagnie Le Bon Cinéma, voué à la production de longs-métrages de fiction canadiens. Ils annoncent la réalisation d'un film sur l'héroïne de la Nouvelle-France, Madeleine de Verchères. La rédaction du scénario est confiée à Emma Gendron, qui s'appuie sur la biographie publiée en 1913 par l'abbé Frédéric-Alexandre Baillarger, curé de Verchères, justement. Pas besoin de « silence, on tourne ». Le film muet est tourné en extérieur à l'automne 1922, notamment dans la réserve de Kanawake, où la réplique d'un fort en bois est érigée. Un des fils de Joseph Arthur Aumier, Joseph Armand, manie la caméra. Le rôle-titre est tenu par une jeune néophyte montréalaise, Estelle Bélanger, entourée par des acteurs amateurs et professionnels et des figurants de la communauté Mohawk. Madeleine de Verchères. Le 12 novembre 1922, une publicité dans la presse annonce la projection au Théâtre Saint-Denis du film historique monté et joué au Canada par des Canadiens, Madeleine de Verchères. La coquille augure mal pour sa notoriété. Les billets coûtent entre 25 et 35 centimes, l'équivalent de 4,50 $ et 6,30 $ en 2025, mais les spectateurs auront l'insigne occasion de voir en complément de programme une vue du congrès eucharistique de Rome et deux rouleaux de comédie tout de même. Sur la même page, un article décrit longuement le scénario et son heureuse conclusion. Pas de divulgateur ici, le destin de l'héroïne est connu. Ces scènes d'action font de ce film historique le plus intéressant cours d'histoire auquel nous ayons assisté, conclut l'auteur anonyme. Un second film à l'américaine. Joseph Arthur Aumier quitte la compagnie Le Bon Cinéma en 1923. Mais le succès d'estime de Madeleine de Verchères l'encourage à lancer avec Emma Gendron un second tournage sur un sujet plus contemporain, sinon plus ambitieux, le trafic de stupéfiants. Emma Gendron rédige le scénario de 16 pages de « La drogue fatale ». Il raconte les innombrables rebondissements d'un drame où la fille adoptive d'un chef de police est kidnappée et droguée par des trafiquants qui veulent faire chanter son père. Les scènes sont tournées à la prison de Bordeaux, à la prison des femmes, à la cour du Recorder, maintenant cour municipale, ainsi que dans un petit studio créé pour l'occasion dans la rue Labelle. Le film est présenté le 20 janvier 1924, encore une fois au Théâtre Saint-Denis. Une publicité parue la veille dans La Patrie met bien en évidence l'indication « Scénario par Emma Gendron », au-dessus du nom des acteurs inscrits en caractère lilliputien. Le film récolte des critiques généralement favorables, mais peine à trouver une place au milieu de l'omniprésente production américaine. En dépit des minces recettes, ou peut-être à cause d'elles, Emma Gendron et Joseph Arthur fondent en 1925 la revue de Manon, où la jeune femme importe le populaire courrier de Manon qu'elle tenait dans le samedi. Ils y commentent abondamment leur prochain projet de film, « Les fils de la liberté », qui doit porter sur les patriotes de 1837. Il ne se concrétisera jamais, faute de fonds. Fin. Après la mort de Joseph Arthur Aumier en 1934, des suites d'un cancer, Emma Gendron ajoute à sa palette littéraire des contes éducatifs illustrés par un dessinateur d'origine britannique qu'elle épousera en 1941. Elle dirige divers périodiques pédagogiques, fonde une maison d'édition de romans populaires, puis ouvre avec son mari un commerce de plantes médicinales. Elle meurt en 1952 à Montréal lors d'une crise d'asthme nocturne. Parce qu'ils étaient sur pellicule en nitrate de cellulose hautement inflammable, les bobines des films de Joseph Arthur Aumier ont été détruites par son fils à la demande du service des incendies. Il n'en reste aucune trace. Malgré leur éclat éphémère, ils constituaient une projection vers l'avenir. C'était « Une femme scénarise le premier long-métrage de fiction québécois », un texte de Marc Tison, paru le 20 septembre 2025 dans La Presse.